Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal Blaise Chindani.
Un nouveau pas dans les pourparlers de paix entre Kinshasa et l'FC M23 à Doha. Les deux délégations ont signé aujourd'hui un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au nord et au sud Kivu, sous la médiation du Qatar pour tenter d'élever les principaux points de blocage. Des maisons écroulées et de nombreuses personnes, dont les enfants sans abri à Luena, territoire de Bukama dans la province du Haut-Lomami. C'est à la suite d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur cette entité samedi dernier. La taxe conventionnelle versée par les entreprises minières du Maniema permet d'entretenir plusieurs routes de la province. Pour en parler, nous recevons Amissi Achimou, leur représentant. Il revient sur l'importance de cette contribution au micro de Florence Kizalunga. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Un pas jugé important dans la relance du processus de paix dans l'Est de la RDC. Le gouvernement congolais et l'FC M23 ont signé ce mardi à Doha un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au nord et au sud Kivu sous la médiation du Qatar. Les deux délégations arrivées sur place depuis lundi doivent désormais tenter de lever les principaux points de blocage des discussions. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Plusieurs sources évoquent une reprise des discussions considérée comme une étape décisive dans le processus de paix entre les gouvernements congolais et l'AFC M23. Les échanges doivent aborder les principales sources de divergence, notamment l'échange de prisonniers perçu comme l'un des obstacles majeurs au dialogue. Un mécanisme a déjà été signé, confia au Comité international de la Croix-Rouge le rôle d'intermédiaire neutre pour l'identification et la libération des détenus. Autre dossier sensible, les retours des réfugiés congolais installés dans les pays voisins, inscrits parmi les 7 points de la déclaration des principes signée entre les deux parties. Les gouvernements exigent une identification préalable et refusent tout retour dans les zones encore en conflit, position qui pourrait à nouveau bloquer les pourparlers. Pourtant, les rapatriements des réfugiés demeurent une revendication historique du M23 formulée depuis plus d'une décennie. Ce mardi, le gouvernement et l'AFC M23 ont également signé les mécanismes de vérification du cessez-le-feu dont les acteurs et les modalités de mise en œuvre n'ont pas encore été révélés. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le territoire de Mwenga au sud Kivu est complètement isolé de la ville de Bukavu depuis une semaine. En cause, tous les engins qui transportent les marchandises en direction de Mwenga sont interdits de progresser sur la RN2 à partir de Bwaungu par l'AFC M23. Les forces vives du territoire de Mwenga lancent un cri de détresse et demandent aux rebelles de laisser libre passage aux commerçants qui approvisionnent Mwenga en produits de première nécessité. Lungele Itebo, président du bureau de coordination territoriale de la société civile de Mwenga, alerte l'opinion nationale et internationale sur les dangers qui guettent la population au cas où la mesure perdure. On l'écoute.
Le bureau de coordination territoriale de la société civile Force Vive, Mwenga, condamne fermement la décision de la fermeture de passage Bukavu-Mwenga sur la route nationale numéro 2 à Bwaungu par l'AFC M23 depuis le mercredi 8 octobre 2025. Cette décision illégale perturbe l'ordre social et économique des deux côtés, à Bukavu ou ici en territoire de Mwenga. C'est pourquoi nous exigeons à l'AFC M23 d'ouvrir le passage pour replacer les civils innocents dans leurs droits fondamentaux à la vie, à la circulation et à la santé. Cette décision viole les textes légaux nationaux et internationaux. Infliger la misère et la souffrance aux civils innocents, c'est les pousser à la révolution et la résistance. Aux parties prenantes de protéger les civils et leurs biens et les garantir libre circulation au respect de la loi.
En Ituri, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF a été signalée lundi dans le village d'Apitineko, à une centaine de kilomètres au sud de Bunia, dans le territoire de Mambasa. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et d'une dizaine de personnes enlevées. Selon la société civile locale, un groupe de ces rebelles se serait installé dans la forêt de la chefferie de Babila Bakwanza, où ils pillent les récoltes des paysans désormais privés d'accès à leurs champs. Reportage d'Isaac Remoyope, rendu par Alain Hirong.
De nombreux paysans de la chefferie de Babila-Bakwanza vivaient au cœur de la forêt où ils avaient construit des abris pour cultiver leurs champs. Mais lundi, au village d'Apetineko, un groupe de rebelles des ADF les a surpris en pleine activité. Selon plusieurs rescapés, 2 personnes ont été tuées. 10 d'autres ont été prises en charge pour transporter les butins. Les assaillants ont emporté des produits champêtres, notamment du cacao et du riz, avant de regagner leur bastion dans la forêt. D'après la société civile locale, d'autres groupes de ces rebelles se seraient installés vers Ndouye, où ils pillent également les récoltes des habitants. Ces derniers n'ont plus accès à leurs champs, ce qui accentue leur vulnérabilité. Des sources locales affirment que ces combattants fuient la traque des forces conjointes FARDC-UPDF après l'embuscade tendue le week-end dernier contre un convoi de l'armée ougandaise à Lolwa. L'attaque a fait 2 morts côté ougandais et 2 véhicules militaires incendiés. La nouvelle société civile de Mambasa dit avoir alerté à plusieurs reprises les autorités militaires sur la présence des rebelles dans la forêt sans véritable réponse sur le terrain. Les forces armées assurent toutefois que les capacités de nuisance des ADF sont désormais réduites et que les opérations de traque se poursuivent dans la région.
Des maisons écroulées et de nombreuses personnes, dont les enfants sans abri, ça se passe à Luena, territoire de Bukama, dans la province du Haut-Lomami. C'est à la suite d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur cette entité samedi dernier. La société civile locale alerte et lance un cri de détresse en faveur de ces sinistrés qui sont exposés à des intempéries. D'autres détails avec Darik Mouemakalonda, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Luena, joint par Jean Galou.
La commune de Luena a enregistré plusieurs dégâts matériels, entre autres 87 maisons d'habitation, un centre de santé et 3 églises ont été écroulées suite à la forte pluie et vent violent du 11 octobre 2025. Quelques personnes ont été victimes de blessures, dont une fille de 12 ans a connu une fracture à la jambe gauche. Les quartiers les plus touchés, Kamanda, Kimba et Kabioula. Les sinistrés vivent à la belle étoile. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement national, provincial et aux partenaires de pouvoir assister aux victimes.
Province du Maniema, le médecin continue à hausser les tons pour dénoncer et condamner l'assassinat de 3 médecins dernièrement à Isangi, dans la province de la Tchopo. Dans la matinée de ce 14 octobre, une marche pacifique a été organisée par ces derniers pour faire entendre leur voix. Ils demandent que la justice soit faite. Florence Kizalunga, reportage.
Avec banderoles et sifflets à la main, accompagnés de la fanfare, cette marche est partie de la tribune centrale de Kindu pour chuter au gouvernorat des provinces. Devant l'autorité provinciale, les médecins demandent leur protection car, disent-ils, ils sont au service de l'humanité. Docteur Charles Omesumbu.
Je crois que vous l'avez appris que les médecins sont en colère suite à l'assassinat tragique de notre confrère docteur Placide Mbungi Pangalala alors qu'il était en mission de service dans la zone de santé d'Isangi. Brûlé, calciné, lapidé et les restes même, on dit qu'on les a jetés dans la rivière. Le message d'abord c'est pour dénoncer, désapprouver et manifester notre colère et notre mécontentement. Mais aussi faire venir devant la face du monde la réalité que peut subir des médecins dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas protégés et aussi faire passer ce message à la communauté qui doit comprendre l'importance du médecin, sa dignité, son inviolabilité, mais aussi le respect qui leur est dû de par le serment et le testament d'Hippocrate que nous avons à la fin de notre cursus.
Le gouverneur a reçu leur mémorandum et a promis de faire parvenir leurs doléances au président de la République. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, la Fondation Bi Esther dresse un tableau sombre de la situation de la jeune fille du Nord Kivu dans le contexte de guerre que traverse la province. Elle l'a dit au cours d'un atelier de sensibilisation qu'elle a organisé ce lundi 13 octobre à Goma avec l'appui de la section genre de la MONUSCO. C'est dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille qui est célébrée le 11 octobre de chaque année. L'organisation a saisi l'occasion pour sensibiliser les filles à leurs droits ainsi que promouvoir leur participation active dans les communautés autour de l'égalité des chances ainsi que lutter contre les violences basées sur le genre. Elle appelle ces dernières à s'impliquer dans la recherche de la paix mais aussi à être autonomes. Ceci afin de lutter contre les antivaleurs
Ici Madame Zaina Mignon, directrice générale de la Fondation Biester à Esbel, explique l'importance de cette journée.
C'était question de rappeler la jeune fille qu'elle a d'abord eu une journée dédiée à elle, qu'elle est censée travailler sur ses droits. Elle est censée lutter surtout pour les abus et exploitations sexuelles faites à son égard. C'est pour cette raison que nous avons réuni des jeunes filles de différents domaines et différentes associations pour parler sur cette question de paix dans les zones en conflit, pour parler sur sa participation active dans la résolution de conflits et sa participation dans le processus de la paix. Il est temps que la jeune fille prenne vraiment cette question en main et dire non à tout ce qui se passe contre elle et contre son exploitation. Par rapport à la jeune fille du Nord Kivu, elle a subi beaucoup de blessures pendant ce contexte de guerre. Il y a beaucoup de filles qui ont été violées, d'autres qui sont manipulées, d'autres qui sont emportées, disparues. Mais nous sommes sûrs qu'avec l'appui de la MONUSCO et aussi avec la résolution 2950 qui met un point sur la participation de la jeune fille, on va arriver à surmonter ces défis.
Un mot sur le sport dans ce journal. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC reçoivent les Crocodiles du Nil du Soudan ce mardi 14 octobre 2025 en match de la 10e et dernière journée du groupe B. Un match crucial qui va déterminer si la RDC jouera la phase finale de la Coupe du Monde plus de 50 ans après la dernière participation du pays. Vanessa Kongolo revient sur l'enjeu de ce match.
C'est le jour de vérité pour la RDC qui joue contre le Soudan ce soir à 20h au stade de Martyrs. Les Léopards doivent gagner ce match pour d'abord sécuriser leur place de meilleur deuxième parmi les quatre meilleurs deuxièmes d'Afrique, synonyme d'une qualification au barrage continental qui se joueront au Maroc. Mais aussi et surtout, gagner en espérant un faux pas du Sénégal face à la Mauritanie, match qui se joue à la même heure que celui de la RDC au stade Ablaye Ouad. Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC, qui continue à croire à la qualification de la RDC malgré le fait d'avoir perdu la première place du groupe au détriment du Sénégal, a dit en conférence de presse d'avant-match que son groupe a encore son destin entre ses mains. La RDC joue en réalité deux matchs ce mardi, l'un contre le Soudan et l'autre à distance contre le Sénégal. Mais en cas d'une défaite, la RDC va oublier complètement cette Coupe du Monde qu'organisée par les USA, le Mexique et le Canada.
Toujours concernant ce match crucial que la RDC va livrer tout à l'heure contre les Soudan, certains Quinois ont des avis partagés par rapport à leurs pronostics. On les écoute au micro de Josué Kefebe.
Et tant que Congolais patriotes, je crois que on va battre les Soudan par 2-0. D'abord, n'oubliez pas que il y a encore les matchs du Sénégal que nous suivons de près. Et le Sénégal peut trébucher aujourd'hui, cet après-midi. C'est notre souhait. Tant que Congolais, nous souhaitons la chute du Sénégal. Mais rien n'empêche que le Sénégal aussi sort la tête haute.
Je suis sûr que le Léopard va gagner. 2-0. Je suis sûr de mon équipe et de mon pays. J'ai confiance à Bakambu, Chancel Bemba et toute l'équipe.
On doit gagner aujourd'hui. On doit gagner. La victoire, même 5-6, hein, bon, c'est ça.
Pour le match du Léopard, je suis congolais, hein, gagner 2-0.
Actualité internationale.
La présidence de la République de Madagascar a publié sur sa page Facebook ce 14 octobre 2025 un décret portant dissolution de l'Assemblée nationale alors que les députés se réunissaient ce mardi pour entamer le processus de destitution d'Andry Rajoelina pour abandon de poste. Les députés estimant ce décret présidentiel invalide se sont donc lancés dans une course contre la montre pour voter coûte que coûte la motion de déchéance du chef de l'État. Au Bénin, le parti d'opposition, les démocrates, a désigné ce 14 octobre 2025 son candidat pour la présidentielle du 12 avril prochain. Le jeune avocat Renaud Vinilé Agbodjo, une surprise pour les observateurs du monde politique béninois.
L'invité.
Notre invité est Amissi Achimo, représentant des entreprises minières du Maniema. Il nous parle de l'impact de la taxe conventionnelle que les miniers payent régulièrement pour la réhabilitation des routes du Maniema. Amissi Achimo s'entretient avec Florence Kizalunga.
Amissi Achimo, bonjour.
Bonjour Madame Kizalunga.
Opérateur minier, vous payez régulièrement la taxe conventionnelle. Est-ce que vous avez déjà eu le résultat de cette taxe?
Oui Madame, nous venons de palper du doigt les résultats de cette taxe parce qu'au départ, ce n'était pas facile. Il y a eu des tractations avec l'autorité provinciale pour nous convaincre, ce n'était pas facile. Mais maintenant, avec ces tournées que nous venons d'effectuer dans les deux territoires, donc on a commencé à 19 km, la route Nyoka jusqu'à Pangi Centre. Quitté Pangi Centre, nous venons de traverser Lubile, Kalima, Kailo, jusqu'au barrage d'Amboué. Donc nous trouvons que avec la taxe que nous sommes en train de payer, l'argent est bien justifié.
Pensez-vous qu'avec l'initiative du gouvernement provincial, et si vous le minier, vous appuyez cela, ça peut changer la situation de notre province?
En tout cas, ça doit changer. Nécessairement, d'abord, il y a eu des échos favorables. Avec la descente que nous venons d'effectuer ensemble avec vous, madame journaliste, vous voyez vous-même. Donc de l'autre côté, vers Pangui, on nous a dit que les derniers véhicules étaient passés là-bas en 1981. Mais avec la taxe que nous, miniers, nous sommes en train de payer à travers l'initiative de l'autorité provinciale, mais il y a eu cortège de véhicules, plus de 21 véhicules qui viennent de passer sur cette route-là.
C'est-à-dire, c'est un offre de soulagement pour vous. En quoi est-ce que ces routes vous est utile, vous, opérateur minier?
Bon, vous savez, avec les négociants, lorsqu'ils achètent les minerais pour arriver à la destination de Kindu, s'il y a des conditions de route qui ne sont pas bonnes, ça risque de bloquer que les minerais n'arrivent pas à la destination aux entités de traitement. Donc, j'ai présente. Donc il y a des retombées, il y a des signaux forts avec cette réhabilitation de nos routes.
Quelles étaient les conséquences pour vous miniers avant la réhabilitation de ces tronçons quand vous évacuez vos minerais?
Madame journaliste, on avait connu beaucoup de braquages lorsqu'il y avait des mauvaises routes dans les axes que les négociants achètent des minerais, tels que 80 jours sur la route qui mène vers Kailo, là il y avait des braquages. Comme on savait que la route n'était pas praticable, donc les bandits armés ont profité de cette mauvaise routes pour traquer les gens là-bas.
Est-ce que c'était seulement les opérateurs miniers ou vous étiez cible ou comment?
Bon, la logique, nous, opérateurs miniers, nous étions cibles parce que on sait que les opérateurs miniers, nous avons beaucoup de moyens. Lorsque on envoie quelqu'un pour déposer l'argent auprès des négociants, là, on braque les gens parce qu'on savait qu'il y a mauvaise route de la route qui mène vers Kailo. Mais maintenant, aussi, lorsque vous transportez les minerais, de votre retour, on peut encore vous braquer là-bas, on récupère les produits pour que les bandits profitent.
C'est que, avec la réhabilitation de ces tronçons, vous êtes en train de sillonner la province jusqu'au chef-lieu sans problème, sans difficulté avec vos minerais.
En tout cas, actuellement, il n'y a pas de souci à ce qui concerne la sécurité parce que toutes les routes sont en bon état. Ça nous permet de faire nos activités correctement et calmement. Et ça arrive à temps réel parce que vous quittez Kailo. Actuellement, les minerais quittent de Kailo, Kindu. On peut faire même 3-4 courses avec la condition de la route que l'autorité provinciale, à travers son initiative, il vient de réaliser.
Mais il y a certains d'entre vous qui ne sont pas encore favorables à cette initiative du gouvernement provincial.
En tout cas, madame journaliste, à ce qui concerne le secteur minier, nous tous nous sommes très satisfaits. Parce que nous, comme opérateurs miniers, avec les réhabilitations de nos routes, ça nous permet de continuer à faire nos activités calmement. En tout cas, nous tous, nous sommes favoris.
Et parmi vous, les miniers, il y a ceux-là qui sont impliqués pour faire le suivi de tout ce que vous donnez comme argent pour la réhabilitation des routes.
Moi, ici qui vous parle, je suis le porte-parole des opérateurs miniers, secrétaire aussi exécutif des opérateurs miniers, et conseiller juridique. Donc, je suis chargé de faire le suivi et mobilisation de la taxe conventionnelle. Depuis que nous avons commencé, on fait le suivi et on mobilise les gens pour le paiement aussi. Nous évaluons les travaux, comment ça se passe.
Et comment est-ce que vous évaluez ces travaux ici?
En tout cas, présentement, l'évaluation, nous trouvons que le gouverneur a plus ou moins 80 sur 100. Ici, je trouve que c'est très bien, avec la possibilité d'améliorer à la prochaine et d'ajouter. Parce que ce qui manque là-bas, avec les réhabilitations des routes, c'est bon, c'est seulement les ponts. Je sais que l'initiative de l'autorité provinciale, comme on venait de palper du doigt, nous tous ensemble, nous sommes obligés d'évaluer et de faire le mieux plus que ce qu'on a vécu sur le terrain.
Vous pensez que si vous, les opérateurs miniers, vous continuez à payer régulièrement cette taxe, la province du Maniema sera totalement désenclavée?
En tout cas, sans doute, je trouve que dans 2 ans, ou bien dans 1 an et demie, je ne suis pas l'autorité provinciale pour répondre à cette question, mais avec notre mobilisation, en tout cas, je ne doute pas que dans 2 ans, on ne peut pas relier tous les Maniema dans son ensemble.
Amissi Achimo, je vous remercie.
Merci, madame journaliste.
C'était notre invité, Amis Yachimou, qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal des 15 heures, coordonnée par Élisée Chikotachi-Voueta, supervisée par Alain Irung, Alain Goy, la mise en onde. Ce journal est aussi disponible sur toutes nos plateformes numériques, ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous tout à l'heure à 16h pour notre point d'actualité.